Il y a une émission de télévision qui s'appelle L'ombre d'un doute. Vous avez peut-être déjà vu cette émission. C'est sur France 3, je pense. C'est une émission où on se pose des questions sur des événements historiques ou des personnages historiques. Est-ce que ça s'est vraiment bien passé comme ça, etc. Et L'ombre d'un doute, ça pourrait être le titre de ce message. Et j'aime bien cette expression, l'ombre d'un doute, parce que ça suggère bien l'idée que le doute dépose une ombre sur les choses, sur les personnes, et fait en sorte qu'on n'y voit plus très, très clair. Alors, sans transition, comme disent les journalistes à la télévision, nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, les versets 5, 6 et 7. Donc Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors vous voyez ici que Jacques nous dépeint une personne qu'il qualifie d'irrésolue, inconstante, une personne qui est dans le doute. Alors au-delà du contexte, moi ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est l'image de cette personne là, qui est ballottée d'un côté à l'autre, qui ne se dirige plus, qui n'est plus maître de sa direction, mais qui se laisse aller de gauche à droite, dépendant d'où vient le vent. Alors cette personne, si elle marche comme ça en zigzag, c'est pas parce qu'elle a bu un verre. D'ailleurs, tiens, je me pose la question, pourquoi est-ce que quand quelqu'un est sous, on dit qu'il a bu un verre, hein? En général, si tu es sous, c'est que tu as bu plusieurs verres. Ou alors c'est un grand verre, un très grand verre. Enfin, donc, c'est pas pour ces raisons-là, mais c'est parce qu'il se pose des questions, et alors il n'obtient pas de réponse, ou bien les réponses qu'on lui donne, eh bien, ça ne le satisfait pas, ça ne lui donne pas une conviction. Et alors, il est dans le doute, et alors, il se laisse aller à gauche, à droite. Alors, je veux te préciser tout de suite que ici, mon propos, ce n'est pas de dire il ne faut pas se poser des questions, il faut tout gober comme des oies, des autruches. Hein. D'ailleurs, la Bible, au contraire, nous encourage à être critiques. Hein. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 21, pour ceux qui prennent des notes, nous lisons « Examinez toutes choses ». Retenez ce qui est bon. Un autre exemple, c'est dans le livre des Actes, où on nous dit que les Juifs de Bérée vérifiaient dans les Écritures ce que Paul et Silas leur disaient était exact. Bien sûr, c'est légitime de se poser des questions lorsqu'on médite, lorsqu'on essaie de comprendre, c'est normal de se poser des questions. Mais, voilà, ce que je voulais vous mettre en garde, c'est contre les effets néfastes du doute sur notre santé spirituelle. Sur les paquets de cigarettes, maintenant je crois que c'est encore une autre inscription, encore pire, mais à un moment donné on écrivait « Le tabac peut nuire gravement à votre santé hein, ». Et aujourd'hui c'est encore pire, je crois qu'on met « Le tabac vous tue » ou quelque chose comme ça. Mais on pourrait paraphraser ça et dire « Le doute » peut nuire gravement à votre santé spirituelle. Alors, dans un message, une méditation au cours du G30, je me rappelle que mon frère Salvatore Cavalleri nous avait partagé qu'il lui arrivait de se poser des questions depuis qu'il était chrétien, mais jamais de douter. Alors, je voudrais pouvoir en dire autant, mais moi, en ce qui me concerne, ça m'est arrivé, surtout au début que j'étais chrétien. Vous savez, après la période d'enthousiasme, la période un peu où on voit tout en rose et tout ça, puis à un moment donné, on commence à se poser des questions. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que j'ai bien fait? Je me souviens que quand même dans ces moments de doute spirituel, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Et l'autre Salvatore, le numéro un, c'est toi le numéro un, nous a dit tout à l'heure, comme il le fait à chaque fois, c'est que ce que nous risquons de perdre avec ce doute, c'est notre joie, notre force, notre consolation. Alors, dans cette première lecture, donc dans Jacques, on peut déjà remarquer deux effets. On va passer en revue un petit peu quelques effets néfastes donc, du doute sur notre vie spirituelle. Dans la première lecture, donc, nous pouvons remarquer déjà deux choses. La personne qui doute, elle est ballottée comme ça, de gauche à droite. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le doute, il n'avance plus correctement, parce que ce ballottement comme ça de gauche à droite, cette incertitude fait en sorte que il perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui marche comme ça, il n'avance pas aussi vite que quelqu'un qui va en ligne droite. Donc il perd beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il écoute ce qu'on dit à gauche, il écoute ce qu'on dit à droite, puis il s'arrête, il repart. Et il perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et il perd beaucoup de temps par rapport à quelqu'un qui avance avec foi. Et une deuxième chose, c'est qu'on nous dit dans le texte que cette personne qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux qui se confient en lui sans réserve. On reviendra sur les bénédictions un petit peu plus loin. Alors, on vient de voir que le doute, ça nous freine, ça nous ralentit, ça nous empêche d'avancer correctement. Mais aussi, ça peut carrément nous bloquer. Vraiment, être dans l'impossibilité d'avancer, et ça peut nous empêcher de progresser dans la connaissance de la parole et de la pratique. Et on a un exemple dans Hébreux au chapitre 5. Qu'on peut lire ensemble, Hébreux au chapitre 5. On peut lire à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et au chapitre 6, nous pouvons continuer. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Alors, voyez ici, l'auteur de cette épître, donc, évidemment, il s'adresse aux Hébreux, hein, c'est le titre de l'épître, et il s'adresse à des Juifs qui donc, se sont convertis ou hésitent à se convertir. Et l'auteur de cette épître leur a bien expliqué hein, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et, mais ces Juifs, ils sont encore dans le doute. Hein. Ils remettent en question encore des choses qui devraient être connues, assimilées, acceptées. Et pourtant, l'auteur, hein, dans toute l'Épître aux Hébreux, cet auteur leur explique hein, que toutes ces pratiques de l'Ancienne Alliance n'avaient plus d'utilité, n'avaient plus besoin d'avoir lieu, que donc ils doivent abandonner ces anciennes pratiques qui sont devenues inutiles hein, maintenant que Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, que tout a été parfaitement accompli à la croix et donc qu'il n'est plus nécessaire de faire d'autres sacrifices, que le salut s'obtient non plus par l'obéissance à la loi mais par la foi en Christ. Rien à faire, hein, ces Juifs, ils reviennent encore et toujours avec les mêmes questions. Hein. « Ouais, mais t'es sûr que on n'a plus, la circoncision, ça ne sert plus à rien, t'es sûr ouais, mais t'es sûr qu'on n'a plus faire des sacrifices quand même, est-ce qu'on ne devrait quand même pas faire un petit sacrifice de temps en temps, c'est jamais. » Oui, ils reviennent tout le temps avec des choses qui sont des éléments de base. Et alors, l'auteur de l'Épître, il leur explique que s'ils continuent à poser toujours les mêmes questions et à rester toujours, à mettre en doute les bases, les fondements de l'Évangile, eh bien, on ne peut plus avancer. Hein, on ne peut plus avancer. Donc, il leur demande, ben, maintenant, on arrête de poser toujours les mêmes questions, de revenir un petit peu sur les mêmes points, et on va essayer de progresser. Hein. C'est comme des élèves de première année qui vont qui arrivent en deuxième année. Si le professeur de deuxième année il doit recommencer à faire tout, le programme de première année, ben, il ne va pas pouvoir avancer. Hein. Et bien souvent, les professeurs nous disaient... certains étaient gentils, alors ils réexpliquaient, ils faisaient encore une révision. Mais aussi certains nous disaient, ça a été vu l'année passée, c'est terminé, moi je continue. Et donc c'est vrai que si on n'est pas sûr de la fondation, si on est tout le temps en train de tourner autour des fondations, si on se dit, est-ce que la fondation, que j'ai, le béton que j'ai coulé, est-ce qu'il est bien sec, est-ce qu'il est bien dur, est-ce que j'ai mis assez des barres de béton. Et si on continue à tourner autour de la fondation, on ne construira jamais la maison. Hein. On ne commencera jamais à fabriquer. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut avancer, progresser. Et le doute empêche d'avancer. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous partager, c'est que nous devons aussi accepter de ne pas tout savoir. De ne pas tout connaître. Accepter qu'il y a des questions qui vont rester sans réponse. Accepter que certaines choses appartiennent à Dieu et qu'il n'a pas l'obligation de nous les révéler. Il nous dit ce que nous avons besoin de savoir. Et nous avons un exemple dans Jean au chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. À partir du verset 18. Donc, il y a là Jésus, il y a Pierre et il y a Jean. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Alors, donc vous voyez que ici Jésus a fait une révélation à Pierre. Il lui indique qu'il va mourir en martyr. Hein. Selon la tradition, Pierre a été crucifié, mais la tête en bas. Parce que c'est la tradition qui le dit. Hein. Il ne voulait pas mourir de la même façon. Il s'estimait indigne de mourir de la même façon que Jésus. Et donc, dès qu'il apprend ça, Pierre, il a tout de suite le réflexe de demander, et lui, Jean, que lui arrivera-t-il? Et c'est une question légitime, hein, c'est normal de s'inquiéter pour son ami, hein. C'est pas de la curiosité comme ça, mais c'est parce qu'il voudrait bien savoir qu'est-ce qui va arriver à son ami. Et alors Jésus, il va répondre de manière surprenante quand même, hein. Que t'importe? Que t'importe? Alors c'est un peu, ça nous choque un peu parce que Jésus... Nous a enseigné à aimer notre prochain, nous a intéressé à notre prochain, à avoir de la compassion, même pour nos ennemis. Et puis là, il nous dit, que t'importe. Ça peut paraître un peu surprenant, un peu choquant. Mais en fait, Jésus, dans cette réponse, par cette réponse, il n'encourage nullement l'égoïsme, hein. Le chacun pour soi. Mais il veut que Pierre comprenne certaines choses. D'abord, il veut que Pierre comprenne qu'il ne lui est pas permis de connaître certaines choses, sauf si Dieu décide, en toute souveraineté, de les lui révéler. Dieu n'est pas obligé de nous dire tout, et nous devons nous contenter de ce qu'il veut bien nous révéler. Il veut que Pierre comprenne qu'avant tout, il doit se préoccuper d'accomplir sa tâche de disciple et ne pas se laisser distraire par certaines questions. C'est pour ça qu'il lui dit, juste après « que t'importe », il lui dit « toi, suis-moi ». Ça veut dire que c'est vrai qu'on peut légitimement être troublé par des questions, mais on doit d'abord être des disciples. Donc d'abord, suivre Jésus. Donc ce questionnement ne doit pas nous empêcher de faire notre travail de disciple. Il veut que Pierre comprenne aussi qu'on doit avancer avec ce qu'on sait et ne pas se soucier, se bloquer sur ce qu'on ne sait pas. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait, hein, lorsqu'on tombe dans le doute, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et alors, tant qu'on n'a pas la réponse à ça, ben, on n'avance plus, on perd de vue ce qui est notre travail, qui est le travail de disciple. C'est un peu comme les mots croisés. Moi, j'aime bien te faire des mots croisés. Hein. Et lorsque vous remplissez une grille, on commence par le A horizontal, en général. Hein. Et si... vous attendez d'avoir rempli le 1 horizontal avant de passer au 2 horizontal. Et puis, si vous attendez d'avoir toutes les réponses du 2 horizontal pour passer au 3 horizontal, ben, dans 6 mois, vous êtes toujours là. Hein? Et je dirais même dans un an et demi, vous êtes toujours là. C'est une méthode qui est économique, parce que vous n'aurez pas besoin d'acheter beaucoup de grilles de mots croisés. Hein. Mais c'est une méthode peu efficace. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Ceux qui aiment bien les mots croisés vous le diront. Hein. On commence à horizontal, on lit les premières définitions. Je ne sais pas, je passe. Je sais, j'écris. Je ne sais pas, je passe. Et ainsi de suite, deuxième horizontale, je ne sais pas, je passe, je ne sais pas, je passe, je sais, ah, je sais, j'écris, je ne sais pas. Et ainsi de suite, et puis on fait les verticaux. Et puis lorsqu'on a fait tout ça, ben on s'aperçoit qu'il y a des mots qui commencent à se former tout doucement, et on commence à y voir plus clair. Et donc si on s'arrête à ce qu'on ne sait pas, eh bien on n'avance plus. Alors on doit... je pense que c'est une bonne réaction à chaque fois lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas de se dire je ne sais pas, mais je sais ceci, je ne sais pas, oui je ne sais pas répondre à ça, mais je sais ça, je sais ça, je sais ça, et ça m'encourage. Alors on a lu au début de ce message dans Jacques hein, que celui qui doute, la personne qui doute, elle ne peut pas s'attendre à recevoir de Dieu les bénédictions auxquelles il pourrait avoir droit. Alors, une des plus belles bénédictions que Dieu peut nous donner et dont se prive celui qui doute, c'est, notre frère Salvatore nous l'a rappelé dans sa présidence, c'est la joie. La paix et la joie que peut nous donner le Seigneur. D'ailleurs, vous voyez qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, hein, notamment dans Philippiens 3, chapitre 3, au verset 1, Paul dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire de se réjouir. Mais pour pouvoir se réjouir, il faut être dans la conviction, dans l'assurance. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est se réjouir dans le Seigneur? Alors, bien sûr, on peut se réjouir parce qu'on a une bonne santé, hein, parce que ça va bien, on a un bon job, puis on gagne bien sa vie, et tout ça. On peut se réjouir de toutes ces choses parce que ce sont des grâces que Dieu nous fait, ce sont des bienfaits du Seigneur, et donc on peut s'en réjouir et remercier Dieu. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est, par exemple, je me réjouis que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Vous voyez, cette affirmation, cette certitude. Alors, certains, ils vont dire, ouais, mais attends, comment tu peux être sûr là, que tu es enfant de Dieu et tout ça? Alors, c'est vrai que je n'ai pas un papier, une attestation de Dieu. Moi, Dieu, je certifie que Paolo Vasta... bien mon enfant, voilà, avec le cachet, le sceau divin. Bon, j'ai pas ça, mais j'ai dans la parole de Dieu des versets qui me confortent, qui m'enlèvent tout doute. Hein. Par exemple, dans Jean, au chapitre 1, au verset 12, Jean nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ah bien sûr, il faut aussi s'entendre sur ce que ça veut dire recevoir Jésus. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose de facile. Hein. Recevoir Jésus, c'est reconnaître son état de pécheur, se repentir et prendre la décision que désormais, dans ma vie, c'est Jésus qui va me diriger. Mais lorsque je suis dans ces conditions, eh bien, j'ai plus de doute, je suis enfant de Dieu. Et ça me réjouit. Et si vous avez encore des doutes, ben vous pouvez lire dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si l'Esprit lui-même nous confirme que nous sommes enfants de Dieu, alors certains disent, oh, moi l'Esprit ne me parle pas. Il ne me dit rien. Mais peut-être que c'est parce que tu es dans le doute. L'Esprit te parle, mais tu ne l'entends pas. Parce que quand on est dans le doute, On est tellement obnubilé par nos questionnements qu'on n'écoute plus. On n'écoute plus. Et pourtant, l'Esprit, il est là, il te parle et il te dit, réjouis-toi, tu es enfant de Dieu. Mais on ne l'entend pas. Alors, se réjouir dans le Seigneur, c'est aussi, je me réjouis parce que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Je ne doute pas. Pourquoi? Comment? Comment peux-tu être sûr? Et si jamais ceci? Et si jamais cela? La réponse encore se trouve dans la parole. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean nous dit, vous avez, et non pas, vous aurez. Je remercie le Seigneur d'avoir pu aller à l'école et apprendre les conjugaisons, parce que ça me permet de comprendre la différence entre le « ave » et « aurez ». Aurez. Parce que s'il avait dit « vous aurez », cela pourrait laisser planer un doute. Vous aurez peut-être, si vous le méritez, si vous êtes bien gentil, si vous êtes bien sage, si vous faites bien tout comme il faut, vous aurez peut-être, non, vous avez. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute à avoir. Alors bien sûr, il faut aussi préciser qu'est-ce que ça veut dire, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Et là, c'est la même chose que recevoir Jésus, ce que j'ai dit tantôt. Ce n'est pas simplement, oui, je crois. Non, bien sûr, c'est vraiment la prise de conscience de l'état de pécheur, la repentance, la conversion, c'est-à-dire la décision de se tourner vers le Seigneur et de laisser le Seigneur diriger notre vie. Et à partir de ce moment-là, on est dans les conditions. On est dans les conditions. Il n'y a plus à se tracasser. Donc, Paul dit, réjouissez-vous. Comment est-ce que je pourrais me réjouir si je vis dans la crainte d'un danger imminent, d'un châtiment, d'un jugement qui pourrait s'abattre sur moi? Comment est-ce que je pourrais me réjouir avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête? Est-ce que vous rappelez de l'histoire de l'épée de Damoclès? Je ne sais pas, est-ce que vous rappelez de cette histoire? Qu'est-ce qui se rappelle de l'histoire de l'épée de Damoclès? Salvatore Cavalleri, je m'en serais douté. Bien, c'est une ancienne légende grecque. Il y avait un roi à Syracuse qui s'appelait Denis, un roi cruel, un roi très autoritaire. D'ailleurs, on l'appelait Denis le tyran. Denis le tyran, parce qu'il était très très dur avec son peuple, et il était craint, détesté par ses sujets. Et c'était un roi qui passait son temps à prendre beaucoup de précautions parce qu'il avait peur d'être assassiné. Alors il avait beaucoup de gardes du corps autour de lui et tout ça, et il vivait toujours dans cette crainte d'être assassiné. Et à la cour de ce roi, il y avait un certain Damoclès. Donc c'était un courtisan, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'entourage du roi. Et ce Damoclès, il disait tout le temps, « Ah, sire, majesté, comme tu dois être heureux d'être roi, comme ça doit être bon d'être à ta place, être un roi puissant. Ah, comme j'aimerais bien être un roi puissant comme toi. » Et tout ça, et il était tout le temps en train de dire ça tous les jours. Et puis un jour, Damoclès arrive dans la salle du trône, où il y a tous les courtisans. Et le roi, il n'est pas assis sur son trône, il est à côté de son trône, comme ça. Et il dit, Damoclès, est-ce que ça te plairait d'être à ma place pendant toute la journée, de maintenant jusqu'au coucher du soleil? Alors, Damoclès, oh, sire, non, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que ça te plairait? « Oh ben oui, évidemment, oui, bien sûr. Hein. Ben vas-y, qu'il dit. Mais il faut que tu restes jusqu'au coucher du soleil. Alors, Damoclès, il s'installe sur le trône comme ça. Oh, oh, trop cool. Oh, c'est trop cool. Oh, je suis le roi de Syracuse, à la place du roi de Syracuse. Oh, quel sentiment de puissance. Oh, comme c'est magnifique. Oh, comme je me réjouis. Et puis, un peu, et puis il lève les yeux comme ça. Et puis il voit la pointe d'une épée qui est dirigée vers sa tête. Il y a une épée qui est attachée au plafond, hein, avec la pointe vers le bas, qui est attachée par le manche. Un mince fil qui pourrait casser d'un moment à l'autre. Alors évidemment, Damoclès, il veut se lever, mais le roi lui dit, on avait dit que tu restais jusqu'au coucher du soleil. Il faut que tu restes jusqu'au coucher du soleil. Et le pauvre Damoclès, il a dû rester là, toute la journée, avec cette épée là au-dessus de la tête. Et c'est la même chose, celui qui n'a pas l'assurance de son salut, qui n'a pas l'assurance d'être un enfant de Dieu, d'avoir l'assurance que Dieu l'aime, que Dieu veut le sauver, ben, c'est comme s'il avait une épée au-dessus de lui qui risque de s'abattre sur lui. Hein. Et tous ceux qui n'ont pas fait cette démarche de recevoir Jésus, de croire en Jésus, de croire en son nom, eh bien, mais voilà, vous êtes toujours sous cette crainte, sous cette menace. Et donc, si Paul savait que nous étions encore sous cette menace, comment pourrait-il dire « réjouissez-vous » hein? Comment Jean pourrait dire « la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » C'est dans 1 Jean 4,18. Comment est-ce qu'il pourrait dire ça s'il nous savait en danger? Vous imaginez que vous dites à quelqu'un, « Oh, ne te tracasse pas, sais-tu, ça va aller. Hein? Ouais, réjouis-toi, amuse-toi, tout ça. » Tout en sachant qu'il va lui tomber une tuile sur la tête. Ce n'est pas possible. Hein? Ça fait de Paul ou de Jean des menteurs ou quoi, je ne sais pas. Pire, puisque ce sont des hommes qui sont inspirés de Dieu, on fait Dieu menteur. Dieu nous dit dans sa parole, réjouissez-vous. Et on ne peut pas se réjouir si on est dans le doute. L'amour parfait de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, fait en sorte que nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit. Alors je me réjouis aussi parce que Jésus dit dans Jean 14, les 3 premiers versets, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je l'ai entendu dans une prière ce matin, je pense que c'était notre sœur Madeleine. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comment est là la place que le Père est en train de me préparer, que Jésus est en train de me préparer? Est-ce que ça va être un palais ou une cabane en bois? Je ne sais pas. Mais je sais que je serai avec lui dans sa présence. Comment est-ce que ce sera le paradis, hein? Il y a des gens qui se posent des questions. Hein? Le paradis, comment ça va être et tout ça. Est-ce que les rues, elles vont être pavées en or? Est-ce qu'il va y avoir du marbre partout, des pierres précieuses? Qu'est-ce que je sais, moi? Je ne sais pas. Mais je sais que je verrai la gloire de Dieu. Et donc toujours, lorsqu'on dit « je ne sais pas », toujours contrebalancé avec « mais je sais ». Toujours marcher avec ce qu'on est sûr. C'est vrai, il y en a qui se demandent, oui, mais on va être des millions au paradis. Hein. Bon, si j'ai 400 ou 500 000 personnes devant moi, comment je vais faire pour voir Jésus? Des trucs comme ça. Hein. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Jésus va faire pour être présent en même temps avec des millions ou peut-être des milliards de gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il sera tout près de chacun de nous. On ressentira sa présence. Ça, je le sais. Comment il va s'y prendre, je ne sais pas très bien. Alors, encore une chose, c'est que, en tant que disciples, nous devons louer, faire l'éloge de notre maître. On l'a lu dans Isaïe tout à l'heure, chapitre 12, je pense, qu'on doit louer devant les nations, dire les œuvres que Dieu a faites. Donc on doit louer. Le disciple, il doit louer son maître. Hein. Alors imaginez-vous, moi je suis dans le doute, là, je suis tiède, hein, je ne suis pas très chaud et tout ça, et je me pose des questions, je cherche de midi à 14h, et puis il y en a un qui dit, ouais, toi tu es disciple de Jésus, toi, hein, comment il est ton Jésus? Ça va, il est bien. Ben non, hein. Ben non, ça donne pas trop envie de connaître Jésus. Le disciple, il loue son maître. Hein. Il est merveilleux, il est extraordinaire, il a transformé ma vie. Il est, comme dirait Stromae, il est formidable. Ben oui, c'est... Mais pour ça, il faut être dans l'assurance, il faut être dans la conviction. Et si on est dans le doute, le doute, il freine notre ardeur, notre enthousiasme lorsque nous louons le Seigneur, et particulièrement devant les autres. Alors, donc, tout à l'heure, nous avons lu que Jésus, il dit à Pierre, d'abord, il lui dit « Que t'importe ?» Et puis, il lui dit « Toi, suis-moi. » Ce n'est pas pour aller faire une balade dans le jardin de Gethsémané. Hein. Quand il lui dit « Suis-moi », c'est parce qu'il a des instructions pour Pierre. Parce que Pierre, il va être investi d'une mission. Hein, et cette mission, c'est aussi la nôtre aujourd'hui. Hein, c'est témoigner, faire des disciples. Hein. Servir l'Église. Alors, comment est-ce qu'on peut être convaincant si nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes, hein? Le représentant d'une société ou quelqu'un qui doit vendre, que ce soit un service ou un objet, il doit être convaincu que le produit qu'il veut vous vendre, que c'est un produit qui est extraordinaire, qui fonctionne super bien. Hein. S'il vous dit, ouais, ça marche bien, mais bon, il y a quand même un petit truc comme ça, mais enfin, c'est pas grave. Ben déjà, ça enlève toute la puissance de la conviction. Donc ceux qui essayent de vendre quelque chose, ben, ils sont déjà eux-mêmes convaincus que ce qu'ils veulent vous vendre, c'est quelque chose de bien, de super. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être convaincu. Nous-mêmes, d'abord. Parce que sinon, au lieu de transmettre notre joie, hein, notre assurance, notre enthousiasme, mais qu'est-ce qu'on transmet? Ben, on transmet aussi nos doutes, nos questions, nos hésitations. Alors pour terminer, comme conclusion, on pourrait dire que nous ne devrions pas laisser l'ombre d'un doute assombrir la lumière qui nous vient du Seigneur. Cette lumière qui nous donne la joie et la paix que tout chrétien devrait ressentir. Alors pour ça, pour ne pas tomber dans ce doute, on doit trier nos questions. On doit trier nos questions et ne retenir que les questions dont la réponse peut nous aider à fortifier notre foi, à la nourrir des questions dont la réponse va nous faire découvrir une bénédiction, une promesse de notre Seigneur, un enseignement, un encouragement. Quand je lis dans la parole, je dois me poser la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi qui peut me donner un motif d'encouragement, qui peut me donner un motif de réflexion, qui peut me donner un motif d'être encore plus convaincu et fortifié dans ma foi. Les réponses, les questions dans la réponse va nous donner envie de nous réjouir. Et aussi, on doit aussi se contenter de ce que Dieu veut bien nous révéler et d'avancer avec ce que nous savons et pas nous arrêter sur ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas. L'apôtre Paul dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie, j'ai oublié de prendre la référence, nous connaissons en partie, mais lorsque nous serons près de lui, nous saurons tout. Nous saurons tout. Et il y a même peut-être des questions auxquelles on n'aura même plus besoin de savoir la réponse, parce que, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Mais on n'aura plus besoin de poser la question, puisqu'on sera sauvé, on sera là. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà donc une nouvelle année qui débute. Et en cette nouvelle année, on pourrait peut-être prendre la résolution cette année de passer moins de temps à chercher de midi à 14 heures, à patauger dans des questions qui finalement ne nous apportent rien, qui ne nous font pas avancer, mais plutôt à chercher à progresser cette année. Donc, on a progressé l'année passée, essayons de progresser encore cette année davantage dans la connaissance, aussi dans la pratique de l'enseignement du Seigneur. Prenons plus de temps aussi, au lieu de nous poser des questions, prenons plus de temps à nous réjouir. C'est ce qu'on devrait faire la plupart du temps, c'est nous réjouir, louer le Seigneur et témoigner autour de nous de la joie et de l'assurance que nous avons. L'assurance que nous avons qu'un jour nos yeux verront Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors voilà,